Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 pour un nouvel épisode de Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, paru originellement aux États-Unis en 1991 sous le titre Beggars in Spain, et en 1993 pour la première fois dans la traduction française de Claire Michel dans le recueil Futurs qui craignent chez Pocket, réédité en 2012 et en 2016 par les éditions ActuSF.
Nancy Kress est née en 1948 aux États-Unis et a grandi dans la campagne du nord de l'État de New York. Elle a ensuite enseigné en cours élémentaire pendant 4 années. En 1973, elle arrête d'enseigner, se marie et a 2 enfants. Elle a commencé à écrire de la fiction pendant sa 2e grossesse. À son divorce en 1984, elle travaille dans une agence de publicité et en parallèle, elle élève ses enfants, enseigne occasionnellement à l'université et continue d'écrire de la fantasy. À partir de 1990, elle se concentre sur l'écriture de romans de science-fiction. Elle a aussi été chroniqueuse fiction pour le magazine Writer's Digest, a écrit 3 livres sur l'écriture et donne des ateliers d'écriture fictionnelle dans différents endroits du monde. Elle est l'auteur de 27 romans et de plus d'une centaine de nouvelles. Nancy Kress écrit de la science-fiction dure ou hard science-fiction, c'est-à-dire des histoires techniquement réalistes avec beaucoup de détails scientifiques. Ses sujets récurrents sont le génie génétique et l'intelligence artificielle. Dans une interview donnée à ActuSF, elle déclare:
je n'ai aucun diplôme en sciences, ce qui signifie que je dois faire énormément de recherches à chaque fois que j'utilise la science dans mes histoires. Cela me fascine. La science est l'une des 2 manières les plus fructueuses d'explorer notre monde, l'autre étant la spiritualité.
Bon, elle n'a pas l'air vraiment critique des technologies. L'une rêve et l'autre pas est un roman court. Il a servi de première partie à son livre Beggars in Spain, l'un de ses plus grands succès, le premier tome d'une trilogie sur les non-dormeurs.
L'histoire de la novella « L'une rêve, l'autre pas » débute en 2008, donc dans un futur proche au moment de sa première publication en 1991, et se déroule sur une bonne vingtaine d'années. Le monde ressemble à peu près à ce qu'on connaît, à quelques inventions technologiques de près, comme des voitures à coussins d'air, mais qui sont plutôt rares et n'ont pas remplacé les voitures terrestres. Le milliardaire américain Roger Camden est un adepte de la pensée de Kenzo Yagai, le yagaïsme, qui se base sur la liberté individuelle, le libre échange et les contrats. Pour sa fille un être, Camden ne veut pas seulement les modifications génétiques devenues plus ou moins habituelles chez les gens qui en ont les moyens, comme le choix du sexe, l'apparence physique, l'intelligence, les prédispositions à la musique ou la suppression de maladies héréditaires. Il veut aussi qu'elle naisse sans le besoin de dormir, une modification encore au stade expérimental à laquelle seulement une vingtaine de bébés ont eu accès à ce moment-là. Par coïncidence, une 2e ovule de la mère est fertilisée, mais n'a pas fait l'objet de modifications génétiques. Et ainsi naissent les fausses jumelles, Lisha et Alice. Lisha est blonde aux yeux verts, grande, mince, extrêmement intelligente et surtout, sans dormir, elle dispose de beaucoup plus de temps que sa sœur pour faire des expériences et apprendre. En comparaison, Alice, petite, brune, trapue, d'intelligence moyenne et perdant chaque jour des précieuses heures à dormir, ne peut paraître que ce qu'il y a de plus ordinaire. Lisha bénéficie d'une éducation à l'excellence qui l'amène vers des études de droit à Harvard, tandis qu'Alice, délaissée, se sépare de sa famille et choisit une vie recluse à la campagne. Les non-dormeurs commencent alors à être plus nombreux, et comme ils excellent tous dans leurs domaines respectifs, ils suscitent autant de fascination que de ressentiment à l'école, à l'université, dans les entreprises, mais aussi à l'intérieur des familles, allant jusqu'à la haine violente. Les plus radicaux des non-dormeurs s'investissent alors dans la création d'un territoire à eux, afin de pouvoir développer leur excellence en toute sécurité. Ce qui ne fait qu'accélérer l'évolution vers une opposition des deux groupes d'humains. Quand celle-ci va jusqu'au meurtre, chacune des deux sœurs sera alors obligée à prendre position. L'une rêve, l'autre pas, raconte comment un nouveau groupe social émerge dans une société donnée, celle des États-Unis, et quelles sont les conditions qui vont amener à plus de séparation ou à plus de liens entre ce groupe et le reste de la société. Au départ, les non-dormeurs ne sont qu'un petit groupe d'humains un peu spécial, un peu exotique. Mais quand les premiers d'entre elles et eux commencent à atteindre l'âge adulte en étant les meilleurs dans toutes les disciplines, il devient alors visible qu'ils représentent une nouvelle élite. Et quand les recherches montrent progressivement qu'en plus, ils sont plus stables émotionnellement et que leurs organes ne vieillissent que très lentement, une partie des dormeurs commence alors à les voir comme des créatures monstrueuses. Nancy Kress décrit comment les humains ont besoin du sentiment d'appartenance, de se sentir faire partie d'un groupe, ne pas être exclu de l'entourage. Se sentir ou être différente peut avoir comme effet de gêner ou empêcher ce sentiment d'appartenance. Trouver des pairs est alors important pour se sentir comprise et légitime. Alors que, dès sa petite enfance, elle est très aimée et valorisée par son père, Lisha ressent un grand soulagement quand, à son adolescence, elle rencontre pour la première fois un autre non-dormeur.
« Je suis seule, » dit Lisha, s'étonnant elle-même. Elle leva les yeux vers lui. « C'est vrai, je suis seule, vraiment. J'ai des amis, et papa, et Alice, mais personne ne sait vraiment, ne comprend vraiment. Quoi ? Je ne sais pas ce que je dis. » Keller sourit. Le sourire changea tout son visage, en offrit à la lumière les plans sombres. « Moi, si. Oui, oui, je le sais. Que fais-tu quand ils disent « J'ai fait un de ces rêves la nuit dernière ?»« Exactement, » dit Lisha. « Mais ce n'est rien comparé à quand je dis « Je m'occuperai de tout ça pour toi cette nuit » et qu'ils prennent cette drôle d'expression qui signifie « Elle va le faire pendant que je dormirai. » Ça encore, ce n'est pas trop grave, dit Keller, mais il y a aussi quand on joue au basket au gymnase après dîner, et puis qu'on va chercher à manger au snack, et puis qu'on dit « Si on faisait une promenade au bord du lac, et qu'ils disent « Je suis vraiment fatigué, je rentre me mettre au lit maintenant. » Mais ça, ce n'est pas trop grave, dit Lisha sautant sur ses pieds. Il y a aussi quand on est vraiment absorbé par le film, et puis qu'on arrive au moment crucial, et que c'est si magnifique qu'on bondit et qu'on dit « Oui, oui !» et que Suzanne dit « Enfin, Lisha, on dirait que personne d'autre que toi n'a jamais aimé quelque chose auparavant. » Keller était à quelques centimètres d'elle, souriant de ce sourire joyeux, compréhensif. Et soudain, le soulagement emplit Lisha à tel point qu'elle alla droit vers lui et passa les bras autour de son cou, se contentant de le resserrer quand elle sentit son mouvement de surprise. Elle commença à sangloter, elle, Lisha, qui ne pleurait jamais. « Eh !» dit Richard, « Eh !» « Brillant, » dit Lisha en riant, « brillante remarque. » Elle pouvait sentir son sourire gêné. « Tu ne veux pas plutôt voir mes courbes de migration des poissons ?»« Non, » sanglota Lisha, et il continua à la serrer, lui tapotant maladroitement le dos, lui faisant sentir qu'elle était chez elle.
Quand le récit avance, les non-dormeurs les plus âgés se mettent en réseau et partagent à plusieurs reprises des discussions sur la stratégie à adopter vis-à-vis des dormeurs. Essayer de s'intégrer et de trouver une place dans la société avec les dormeurs, ou alors se séparer pour se protéger des discriminations, voire pour ne pas s'encombrer des dormeurs moins performants. Nancy Kress montre alors de manière assez convaincante qu'est-ce qui peut amener les personnages à adopter plutôt l'une ou l'autre position. Lisha, qui a grandi avec le soutien inconditionnel de son père, à lui répéter sans cesse qu'elle est spéciale et à lui fournir tout ce qu'il lui faut pour développer son potentiel, est très sûre d'elle, elle ne doute pas, elle se montre très généreuse et confiante et a une vision plutôt bienveillante de l'humanité.
Quand Lisha rentra chez elle pour Thanksgiving, elle parla de Stuart à Richard. Il écouta, lèvres serrées. Un dormeur. Une personne, dit Lisha, une personne bonne, intelligente, accomplie. Sais-tu ce qu'ont fait tes dormeurs bons, intelligents et accomplis, Lisha? Janine a été exclue du patinage olympique, l'altération génétique analogue à la prise de stéroïdes pour créer un avantage contraire à la sportivité. Chris Devereaux a quitté Stanford, ils ont saccagé son laboratoire, détruit 2 années de travail sur les protéines de la mémoire. La compagnie de logiciels de Kevin Baker doit affronter une campagne publicitaire vicieuse, entièrement souterraine bien sûr, sur les enfants qui utilisent des logiciels conçus par des esprits non humains. La corruption, l'esclavage mental, les influences sataniques. Tous les vieux mots de la chasse aux sorcières. Réveille-toi, Lisha. Tous deux entendirent ces mots. De longs moments passèrent. Richard se tenait comme un boxeur, penché en avant, les dents serrées. Il dit enfin, très calmement, « Est-ce que tu l'aimes ?»« Oui, dit Lisha, je regrette. »« C'est ton choix, nota froidement Richard. Que fais-tu quand il dort? Tu regardes ?»« Tu en parles comme d'une perversion. » Richard ne répondit pas. Lisha prit une profonde inspiration. Elle parla vite mais calmement, en un élan de contrôle. « Quand Stuart dort, je travaille, comme toi, Richard. Ne réagis pas comme ça. Je n'ai pas voulu te faire de mal, et je ne veux pas perdre le groupe. Je crois que les non-dormeurs appartiennent à la même espèce que nous. Vas-tu me punir pour cela? Vas-tu ajouter à la haine? Vas-tu dire que je ne peux pas appartenir à un monde plus large, comprenant tous les gens honnêtes et valables, qu'ils dorment ou non? Vas-tu me dire que la ligne de partage la plus importante tient à la génétique et non à la spiritualité économique? Vas-tu m'obliger à un choix artificiel, nous ou eux ?»
À l'opposé de Lisha, il y a notamment Tony, qui a été forcé par sa mère à cacher le fait qu'il ne dormait pas sous prétexte que les gens allaient croire qu'il est un monstre. Il n'a pas eu l'espace de pouvoir exister tel qu'il était avant sa vie adulte. Il se montre beaucoup plus méfiant, s'attend toujours au pire et a une vision très pessimiste des rapports possibles entre dormeurs et non-dormeurs à long terme.
C'est triste, Lisha. Nous venons d'avoir notre premier décès. Son estomac se contracta. Qui ? Bernie Kuhn, de Seattle. Elle ne le connaissait pas. Un accident de voiture, cela semble assez clair. Il a perdu le contrôle quand ses freins ont lâché dans un virage à pic. Il ne conduisait que depuis quelques mois, il avait 17 ans. Mais le fait significatif ici est que ses parents ont fait don de son cerveau et de son corps à Biotech, conjointement avec le département de pathologie de la faculté de médecine de Chicago. Ils vont le mettre en morceaux pour voir polir la première fois ce que la non-dormance prolongée fait au corps et au cerveau. « C'est normal, dit Lisha. Pauvre gosse. Mais que crains-tu qu'il trouve ?»« Je ne sais pas. Je ne suis pas docteur. Mais quoi que ce soit, si les gens haineux peuvent l'utiliser contre nous, ils le feront. »« Tu es paranoïaque, Tony. »« Impossible. Les non-dormeurs ont des personnalités plus calmes et plus réalistes que la normale. Ne lis-tu pas la littérature ?»« Tony. » Et si tu descends la rue en Espagne et que 100 mendiants veulent chacun 1 $ et que tu dis non et qu'ils n'ont rien à te donner en échange mais qu'ils sont si rongés de colère à cause de ce que tu as, qu'ils t'assomment et te l'arrachent puis te frappent par pure envie et pur désespoir. Lisha ne répondit pas. Est-ce que tu vas dire que ce n'est pas un scénario humain, Lisha? Que cela n'arrive jamais? Ça arrive, dit Lisha d'un ton égal, mais pas si souvent que ça.
Ce que j'aime bien dans comment l'autrice traite ce sujet, c'est que ni l'une ni l'autre des options, séparation ou lien, n'est présentée comme une évidence, une fatalité. Il y a des conditions nécessaires pour rendre l'une ou l'autre possible. Pour pouvoir envisager de coexister dans la différence, il faut avoir l'espace d'exister tel qu'on est. La différence ne mène alors pas forcément à la séparation, il faut créer les conditions pour qu'elle le fasse. Nancy Kress illustre ce processus hyper bien par la relation entre Lisha et Alice quand elles sont encore petites. Comme leur père voulait une fille géniale optimisée et leur mère voulait une fille « normale » entre guillemets, les parents font sans cesse ressentir leurs préférences respectives à leur fille. Et au final, c'est bien ce traitement différentiel qui fait souffrir Lisha et Alice, qui fait que la différence les sépare de plus en plus. on peut imaginer que si les adultes avaient eu un autre comportement face à la différence entre leurs deux filles, elles auraient pu développer une relation bien plus proche. C'est d'ailleurs ce qu'on peut observer tous les jours dans nos sociétés. Certaines différences sont utilisées pour créer un discours qui sépare eux et nous, alors que d'autres différences ne sont même jamais mentionnées et ne semblent pas former un obstacle à se penser ensemble. Ça vaut le coup de s'interroger sur les intérêts qu'une séparation peut servir. Dans l'une rêve, l'autre pas, ce sont de toute évidence les enjeux de pouvoir entre les deux parents qui, en premier lieu, n'ont rien à voir avec les filles et la question du sommeil. Comme pour Tony, la question des violences sur les enfants revient plusieurs fois dans le récit. Notamment quand des parents dormeurs se retournent contre leurs enfants non-dormeurs parce qu'ils n'ont pas anticipé, par exemple, comment ils allaient s'occuper d'un enfant qui ne dort jamais. La maltraitance dans l'enfance est alors une des sources principales des souffrances des non-dormeurs. Des adultes se sont payés le caprice de vouloir des enfants géniaux, des humains optimisés, augmentés, sans avoir pensé ce que cela signifie jusqu'au bout. Quant à l'État, il n'offre aucune protection aux enfants, voire pire, il punit les gens qui essayent de les protéger. Non seulement ce sont les enfants qui en font les frais, mais en plus, cette incapacité des adultes à assumer ce qui était leur choix au départ crée des conditions beaucoup plus difficiles pour développer des bonnes relations entre dormeurs et non-dormeurs.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 avec l'émission Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress.
Les non-dormeurs, avec leur temps supplémentaire et leur fonctionnement émotionnel, hormonal et biologique, sont présentés comme supérieurs. La narratrice principale, Laïcha, est une non-dormeuse, et la plupart de ses amis proches le sont aussi. Ce texte nous donne donc accès de manière assez crue à l'expression de ce sentiment de supériorité. Ce n'est pas remis en cause, c'est un état de fait, une évidence.
Ils nous haïssent. C'est trop fort, corrigea Carole. Pas haïssent. Bon, peut-être, dit Janine. Mais ils sont différents de nous. Nous sommes meilleurs et naturellement, ils en prennent ombrage. Bah, je ne vois pas ce que ça a de naturel, dit Tony. Pourquoi ne serait-il pas tout aussi naturel d'admirer ce qui est meilleur? Nous le faisons. Est-ce que l'un d'entre vous en veut à Kenzo Yagai pour son génie? Ou à Nelson Wade, le physicien? Ou à Catherine Radouski? Nous ne leur en voulons pas parce que nous sommes meilleurs, dit Richard. C'est QFD. Nous devrions avoir notre propre société, dit Tony. Pourquoi devrions-nous laisser leurs règles limiter nos accomplissements naturels et honnêtes? Pourquoi serait-il interdit à Janine de patiner contre eux et à Jacques d'investir dans leurs propres termes juste parce que nous sommes des non-dormeurs? Certains d'entre eux sont plus intelligents que d'autres. Certains ont plus de ténacité. Eh bien, nous avons une plus grande capacité de concentration, plus de stabilité hormonale et plus de temps. Tous les hommes n'ont pas été créés égaux.
Yel parle de leur supériorité sans complexe. C'est un bon miroir du système de domination. Les rapports de pouvoir ne sont pas questionnés et les individus sont catégorisés, classés, selon une échelle de valeurs implicite. Mais ce qui permet de classifier les individus, ce sont des critères qui sont définis par les dominants pour justifier finalement leur place de pouvoir. C'est exactement ce qu'il se passe dans la tête des non-dormeurs. Ils se pensent de manière évidente comme supérieurs. Leur manière de voir, qui est ultra logique, auto-justifie cette supériorité, ce qui donne un truc du style « nous sommes plus logiques, c'est la logique qui fait la valeur d'un individu, nous avons donc plus de valeur ».
La plupart des non-dormeurs sont intelligents. La plupart d'entre eux sont calmes, si ce mot très décrié signifie centrer son énergie sur la résolution des problèmes plutôt que la disperser en émotions à leur sujet. Même Caroline Risolo, la lauréate du prix Pulitzer, nous a donné un étourdissant spectacle d'idées et non de passions déchaînées. Ils sont tous enclins à la réussite, avec un atout décisif, un tiers de temps supplémentaire par jour pour y travailler. Leur succès réside, pour la plupart, dans le domaine de la logique plutôt que dans celui des émotions, l'informatique, le droit, la finance, la physique, la recherche médicale. Ils sont rationnels, méthodiques, calmes, intelligents, gais, jeunes et, peut-être, dotés d'une grande longévité.
Au fur et à mesure du roman, l'idée de créer un espace réservé aux non-dormeurs s'intensifie. Très clairement, le principe serait d'avoir une enclave pour des personnes devenues très riches dans un système capitaliste et qui y sont considérées comme supérieures. L'argument principal qui justifie cette idée est les discriminations ou violences que peuvent subir les non-dormeurs. Mais très clairement, ces personnes ont acquis des positions sociales très reconnues. Ce n'est pas sans faire penser au communautarisme. Mais actuellement, dans le déchaînement médiatique, l'accusation de communautarisme vise les personnes qui sont particulièrement exclues, qui sont particulièrement discriminées et exposées aux violences sociales.
Il y a toujours eu des gens haineux, Stuart. Haïr les Juifs, haïr les Noirs, haïr les immigrants, haïr les Yagaïstes qui ont plus d'initiative et de dignité que soi, je ne suis que le dernier objet de haine en date. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas remarquable. Cela ne représente aucun schisme essentiel entre les dormeurs et les non-dormeurs. Stuart se redressa dans le lit et prit les sandwichs sur la table de nuit. Non, Lisha, tu es vraiment une personne d'une espèce différente, plus adaptée, non seulement à survivre, mais aussi à prévaloir. Ces autres « objets de haine » entre guillemets que tu cites, à l'exception des Yagaïstes, étaient tous dépourvus de pouvoir dans leur société. Ils occupaient des positions inférieures. Toi, par contre... Les trois non-dormeurs étudiants en droit à Harvard sont tous cités dans la revue de droit. Tous les trois. Kevin Baker, le plus âgé d'entre vous, a déjà fondé avec succès une entreprise de logiciels à interface biologique et gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. Tous les non-dormeurs ont des notes excellentes, aucun n'a de problème psychologique, tous sont en bonne santé. Et la plupart d'entre vous ne sont même pas encore des adultes.
Certes, les non-dormeurs subissent des discriminations. Mais ils ont acquis des positions dominantes dans la société états-unienne. En effet, ils ont été génétiquement modifiés pour correspondre aux critères productivistes et capitalistes de cette société. Ce repli sur soi communautaire fait bien plus penser à ce que décrivent les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, qui étudient les riches, les bourgeois. Dans leur ouvrage « Les ghettos du Gotha », ils expliquent comment la bourgeoisie est extrêmement communautariste avec une sorte de ségrégation spatiale, des ghettos, une endogamie, en ne se mariant qu'entre elle et eux, et une forte solidarité familiale et de classe. Dans ce roman, malgré l'évidence des violences subies par les non-dormeurs, le fait qu'elles ne reconnaissent pas leurs privilèges m'a fait penser à une sorte de victimisation bourgeoise, qui permet de justifier un repli sur soi et la préservation de ses privilèges, notamment économiques.
Dans une interview publiée à la fin du livre dans l'édition d'ActuSF, Nancy Kress déclare avoir écrit « L'une rêve, l'autre pas » parce qu'elle a voulu écrire une histoire sur la jalousie. Ça nous a un peu étonnés, parce qu'il nous semble bien léger de parler simplement de jalousie pour les questions dont traite son livre, c'est-à-dire l'accès au pouvoir, l'accès à l'amour parental, l'idée que certains individus auraient objectivement plus de valeur que d'autres, voire des enjeux de maltraitance et de domination. Pour servir son propos, elle a voulu créer des humains qui avaient quelque chose que le reste de l'humanité pouvait envier. Les non-dormeurs disposent de plus de temps pour apprendre et accomplir des choses. Et elle va encore plus loin, non seulement ils sont plus intelligents, plus équilibrés émotionnellement, plus aptes à résoudre des problèmes dans le calme, mais en plus il s'avère qu'ils s'approchent de l'immortalité, car leurs organes ne vieillissent que très peu. Le fait qu'elles poussent leur optimisation ainsi à l'extrême rend l'histoire parfois un peu simpliste. Qu'est-ce qu'on pourrait bien opposer à l'idée de créer des humains plus performants si en plus ils ne seront jamais dépressifs ou colériques, mais plus intelligents et en meilleure santé, et que cette modification génétique ne présente absolument aucun inconvénient? Si la fin présente bien une critique de l'idée que les non-dormeurs seraient plus utiles à la société que les dormeurs, elle semble critiquer surtout ce qui est considéré comme utile ou pas utile pour une société. Mais le fond de l'idée que certaines personnes n'auraient rien à offrir au monde, comme les mendiants en Espagne ou encore les vrais criminels en prison, ne semble pas la gêner et n'est pas vraiment remis en question. C'est une critique importante que je fais à ce livre. Dire qu'il y aurait des gens sans valeur, ça m'est vraiment insupportable. En plus, qui pourrait juger de la valeur objective d'une personne ?
Même si Nancy Kress pose quelques critiques sociales à travers ce livre, ses remises en cause ne vont jamais très loin et restent coincées dans une vision extrêmement libérale du monde. Par exemple, le père de Laïcha et Alice est un peu critiqué pour son machisme, mais finalement, c'est la faute de son épouse si elle s'arrête de travailler pour l'aider dans son travail et élever ses enfants. Elle serait la seule responsable de ses actes.
« Il a sacrifié beaucoup de gens, » dit-elle soudain. « Pas moi, » répondit Susan. Elle rentra la voiture dans le parking de l'aéroport. « Seulement un temps, là-bas, quand j'ai abandonné mon travail pour faire le sien. Roger ne respectait pas beaucoup le sacrifice. « Avait-il tort ?» dit Lisha. La question vint avec une sorte de désespoir involontaire. Susan sourit tristement. « Non, il n'avait pas tort. Je n'aurais jamais dû abandonner mes recherches. J'ai mis longtemps à redevenir moi-même après cela. »
Nancy Kress ne remet pas du tout en cause les rapports sociaux de domination. Ce libéralisme se sent aussi avec son insistance autour de l'idée de contrat et que tout le monde profite du travail des dominants. Elle ne montre jamais qu'il y a des personnes qui sont exploitées et que cette exploitation permet aux plus riches de prospérer. Tout serait une histoire de contrat dont chaque partie tire avantage. Et elle n'écrit rien sur l'inégalité ou l'inéquité de ces avantages. Ce système de contrat est présenté sans analyser les dominations structurelles en cours dans cette société. D'autant plus que le point de vue narratif se situe du côté des plus riches, et qu'elle ne considère jamais les questions du travail reproductif ou du care, alors qu'évidemment le monde ne peut pas fonctionner sans ça. Par exemple, dans l'enclave des non-dormeurs, tous tellement utiles à la société, qui va faire le ménage ? Et quand Suzanne a laissé tomber son boulot quand elle vivait avec le père d'Alice et Laïcha, c'était bien aussi pour s'occuper des filles. À plusieurs reprises, elle prend du temps pour s'occuper du bien-être émotionnel des enfants, ce que le père ne fait jamais dans le roman.
En janvier 2019, Nancy Kress répondait à une interview sur le site des Chroniques des Chroniqueurs. Elle s'y exprime sur la portée critique de la littérature et notamment de la science-fiction.
La science engendre la technologie et la technologie engendre des problèmes éthiques. Qui peut y avoir accès ? Qui la contrôle ? Qui en tire profit ? Qui en souffre ? Le jour où les hommes des cavernes ont découvert le feu, le crime et l'éthique de l'incendie volontaire sont nés. Toute œuvre de fiction qui imagine une nouvelle société traite de questions politiques. Qui a le pouvoir ? Comment le pouvoir est utilisé ? Qu'est-ce qui relève d'un comportement acceptable ou criminel ? Quelles fractures sociales existent et comment elles sont mises en œuvre ? Ce sont des questions politiques. Elles n'ont pas besoin d'être prises en considération dans une histoire d'amour se déroulant en France ou aux États-Unis, par exemple. Mais la SF a un tableau bien plus large que cela. Et même un simple récit manichéen comme le premier Star Wars est politique, parce qu'il montre qui détient le pouvoir, l'Empire, et ceux qui devraient l'avoir, les chevaliers Jedi.
Elle pose de bonnes questions, mais on aurait sûrement des réponses différentes des siennes. On arrive à la fin de cet épisode de Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous a présenté la novella « L'une rêve, l'autre pas » de Nancy Kress, qui nous a laissé un peu mitigés, mais qui par ailleurs est considérée comme le chef-d'œuvre de cette écrivaine de hard science-fiction par pas mal de critiques. Elle a été primée par le prix Hugo, le prix Nebula, le prix Asimov des lecteurs, le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix décerné par Science Fiction Chronicle.
L'émission est montée avec des bouts de chansons du musicien Le Voisin. On se retrouve dans un mois.
Au revoir.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.